C'est l'heure de notre grand débat. À quand l'égalité au travail, Pietro Bugnon?
Oui, l'égalité au sens large. Souvenez-vous, l'an dernier, au Parlement, on a adopté une réglementation pour lutter contre les discriminations salariales. Or, on le sait, les inégalités hommes-femmes, eh bien, ça ne se résume pas à cette question de la rémunération. La grève des femmes du 14 juin veut justement faire la pression pour corriger cela. Quatre invités nous ont rejoints. Véronique Polito, tout d'abord, membre du comité directeur du NIA. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Face à vous, Aude Pugin, présidente de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Vous dirigez l'entreprise APCO Technologies, active dans le secteur spatial. Bonsoir à vous aussi.
Bonsoir.
Alain Salamin, à vos côtés, également autour de la table, consultant aux ressources humaines et chargé de cours à HEC Lausanne. Vous avez travaillé pendant 25 ans dans des directions de ressources humaines. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Églantine Jamais, également, est avec nous, cofondatrice de la société Artemia, un cabinet de conseil en recrutement spécialisé en mixité. Justement, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais commencer par une question très courte et je vais vous demander une réponse très courte. En une phrase, l'égalité au travail, c'est pour quand ? Véronique Polito.
Je dirais environ 250 ans.
Aude Pugin ?
Moi, je dirais pour maintenant, tout de suite, parce que la prise de conscience, elle est là, je pense.
Alain Salamin ?
Moi, si je regarde factuellement les chiffres de l'OFS, on avait en 2011 28,9% de femmes dans les directions. En 2018, 31,6%. Si on veut arriver à 50%, ça va prendre 50-60 ans.
Églantine Jamais ?
Pour que ça arrive, il faudrait déjà qu'on la pense de manière systémique, cette question, et qu'on arrête de penser simplement des petits bouts. L'inégalité salariale, par exemple, c'est un symptôme. Donc tant qu'on ne traite pas le sujet en profondeur, je pense que ça n'avancera pas très vite, effectivement.
Eh bien, on y viendra. Avec nous également autour de la table, Tania Zaspiner, vous serez notre fil rouge pendant ce débat. Tania, question simple, est-ce que l'égalité progresse au sein des entreprises en Suisse ?
Au niveau des salaires, oui, mais petit à petit. Hein. Dans le privé, on est passé de 25% d'écart salarial en 2008 à 19,6% en 2016. Ce sont les chiffres les plus récents de l'Office fédéral de la statistique. Ça représente quand même 1532 francs de moins pour les femmes chaque mois. Et sur cet argent que les hommes reçoivent en plus, 657 francs restent inexpliqués, c'est-à-dire qu'ils ne se justifient pas par des facteurs concrets comme par exemple le niveau de formation.
Et qu'est-ce qu'il en est alors si on regarde maintenant le nombre de femmes dans les postes dirigeants des entreprises ?
Alors, depuis quelques années, l'OFS ne dénote pas de hausse significative. Aujourd'hui, 36% en moyenne des fonctions dirigeantes sont occupées par des femmes. Et puis, l'USAM et Femmes PME Suisse ont présenté une étude la semaine dernière. Elle montre que dans les petites à moyennes entreprises, le pourcentage de femmes dans les directions est passé de 26% en 2012 à 31% en 2017.
Alors voilà pour les chiffres. Tania, sur le plan politique, qu'est-ce qui est fait ?
Alors la révision de la loi sur l'égalité vient d'être votée au Parlement. Elle impose aux entreprises de plus de 100 employés de contrôler les salaires afin de lutter contre les écarts salariaux entre hommes et femmes. Et puis une autre révision, celle du droit des sociétés anonymes, est en cours. Et là, récemment, une commission du Conseil des États a changé d'avis au dernier moment. Elle s'est prononcée contre des quotas obligatoires de femmes à la direction des entreprises cotées en bourse. Mais ce n'est qu'une étape. Hein. Les travaux à ce sujet continuent sous la coupole fédérale.
Merci Tania. On vous retrouve tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Véronique Polito. Vous vous représentez et vous défendez les employés. On observe, il est vrai, une évolution vers plus d'égalité. Évolution qui n'est pas fulgurante, disons. À qui la faute, Véronique Polito ?
Écoutez, déjà, je dois corriger une chose, c'est-à-dire que les 19,6%, on était beaucoup mieux en 2014, on était un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'on a de nouveau reculé en termes d'égalité salariale ces dernières années, donc ce qui montre que parfois on fait trois pas en avant, puis on refait un pas en arrière.
En tout cas, depuis 2008, l'évolution voilà. Va vers une baisse
oui,
de cet écart salarial.
Mais on fait trois pas en avant, un pas en arrière.
À qui la faute facile. Alors ?
La faute, je dirais que c'est déjà à la société. Hein. Il y a des rapports de domination entre hommes et femmes qui sont intégrés dans la société. Puis sur le marché du travail, je pense qu'il n'y a pas une vraie volonté d'intégrer les femmes à long terme. Et puis je dirais au niveau politique, on a un manque de volonté politique. On a eu un débat très intensif l'année passée sur la loi sur l'égalité. Il y a eu une grande manifestation le 22 septembre. Et puis le résultat, c'était une mini révision de la loi sur l'égalité qui n'aura pratiquement pas d'effet, parce que là, comme effet simplement d'avoir des contrôles dans des entreprises qui ont plus de 100 employés, ce qui représente 1% des entreprises en Suisse. Donc ça signifie qu'on n'aura pas réglé le problème des 99 autres entreprises en Suisse qui ont un problème d'inégalité salariale, notamment les PME, et qui nécessitent aussi des contrôles dans les entreprises avec aussi un système de sanctions, ce qui n'existe pas actuellement.
C'est 99 autres pourcents d'entreprises, et on sait qu'il y a beaucoup de PME qui constituent l'essentiel du tissu économique en Suisse. C'est dans ce type d'entreprise, d'après vous, qu'il y a le plus gros gap, qu'il y a le plus gros effort à faire en matière d'égalité?
On a un grand gap dans toutes les entreprises, mais on sait que dans les grandes entreprises, il y a plus une sensibilité par rapport au problème d'inégalité entre hommes et femmes. Il y a aussi une politique du personnel qui vise aussi en plus à promouvoir les femmes, mais dans les PME, qui est quand même le tissu économique principal en Suisse, on n'a pas cette politique qu'on a ou ce potentiel qu'on a dans les grandes entreprises. Et là aussi, il faut des mesures pour l'égalité, pas seulement des mesures sur l'inégalité salariale, mais aussi des mesures pour la promotion des femmes, notamment dans des postes à responsabilité.
Aude Pugin, vous êtes président de la Chambre bourgeoise du commerce et de l'industrie. Parmi vos membres, il y a des PME, et beaucoup d'ailleurs. Est-ce que les patrons de ces entreprises-là sont suffisamment attentifs à la question de l'égalité au travail?
Je pense qu'ils sont très attentifs. On a parlé de la différence entre PME et multinationales. Je pense que c'est pas une volonté délibérée, c'est simplement une question de moyens. Je veux dire, un département des ressources humaines d'une multinationale, en général, ce qu'on appelle un comité de compensation, dont c'est le travail de faire en sorte que le salaire de tous les employés soit équilibré, qu'il soit homme ou femme. Et je pense que des fois, on a un peu le mythe de la politique salariale parfaite comme une grille tarifaire. Ça dépend de beaucoup de choses, hein, de l'âge, de l'ancienneté, de la formation, de la capacité, de l'aptitude et de la motivation au travail. Et donc, même dans des univers qui sont purement masculins, hein, vu que je travaille dans un domaine industriel où effectivement, mais ça, je pense que c'est en train de changer dans le cursus de formation, c'est un mythe de penser qu'il y a une politique d'égalité salariale parfaite entre les hommes et qu'on discrimine les femmes. Il faut comprendre que pour une PME, de mettre en place, elles y sont attentives, elles y travaillent, mais elles n'ont pas les moyens. En général, les ressources humaines d'une société de taille petite ou moyenne, ça va être surtout une personne qui fait le paiement des salaires, qui fait le recrutement, mais quelqu'un qui, à plein temps, s'occupe de la politique salariale et de l'harmonisation de celle-ci, c'est beaucoup plus difficile. Donc, elles y sont sensibles, mais il faut se donner les moyens d'une politique salariale harmonieuse, pas seulement entre hommes et femmes, mais entre tous les collaborateurs.
Mais les moyens, c'est vraiment ça l'explication?
Oui, c'est parce que en général, quand vous fixez votre politique salariale, vous voulez être compétitif par rapport au marché pour garder et attirer vos talents. Donc déjà, vous vous benchmarkez, comme on dit en anglais, par rapport au marché. Et après, vous essayez de faire en sorte, et il faut faire une veille continue de tous les collaborateurs pour s'assurer qu'ils sont tous à un niveau de rémunération juste en fonction des critères que je viens de mentionner, âge, ancienneté, éducation. Et c'est plus difficile qu'on pense.
Mais au-delà de la question salariale, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre entreprise pour l'égalité homme-femme au travail?
Alors, dans mon entreprise, déjà, alors nous, c'est l'inverse, hein, c'est qu'il n'y a pas de discrimination ou alors il y a une discrimination positive, parce que malheureusement, je regrette que, comme on est dans une activité industrielle et industrielle lourde, c'est vrai que ça n'a pas encore l'attention des femmes. Donc, chaque fois qu'il y a un CV de femme, il est brandi avec un enthousiasme énorme. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en matière d'égalité, je pense que c'est avant tout dans les écoles, dans les mentalités qu'il faut changer les choses avant d'être dans le contrôle absolu. C'est pour ça que quand je dis que c'est maintenant tout de suite, la prise de conscience, elle est là et il faut élaborer là-dessus. J'aimerais encore dire une chose. L'État et les entreprises doivent être garants d'une certaine égalité, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder uniquement vers l'État et les entreprises. Je pense que l'égalité homme-femme, ça doit aussi être un projet privé et je me réjouis beaucoup de l'aspiration work-life balance de certaines personnes de 20 ans, trentenaires, où c'est monsieur et madame qui travaillent, qui réduisent tous les deux leur temps de travail pour pouvoir accomplir un projet privé et professionnel.
Véronique Polito, l'égalité au travail ne se décrète pas, c'est en gros ce que nous dit Aude Pugin.
Mais je pense pendant des années, avec les associations patronales, on a essayé la voie volontariste, c'est-à-dire on a fait un projet, on a appelé ça le dialogue pour l'égalité, ça a duré des années. On a dit oui, si on encourage les entreprises à contrôler les salaires, on leur dit comment faire, on leur met les outils à disposition gratuitement, on fait un dialogue tripartite avec aussi la Confédération, on a dit ça va améliorer les choses. La réalité, c'est que sur une base volontaire, il s'est rien passé. Il y a pratiquement pas d'entreprises qui ont fait ces contrôles, ce que je regrette, hein. J'aurais bien aimé que la base volontaire fonctionne, mais en réalité, ça n'a pas fonctionné.
Donc les patrons n'ont pas joué le jeu, c'est ce que vous dites ce soir?
Non, ils n'ont pas joué le jeu sur une base volontaire. Et comme je vous dis, enfin, je veux dire, si on est un chauffard sur la route et puis qu'on fait du 250 à l'heure, on a une amende, on a un retrait de permis. Quand on fait ça en matière d'inégalité salariale en Suisse, on n'a pas de retrait de permis, on n'a pas de sanctions, il n'y a rien. Et c'est pour ça que nous, on dit, si on veut que les limitations de vitesse vitesse soit respectée, il faut avoir un système de sanctions. Ça fonctionne aussi au niveau de l'égalité salariale.
Alors, il y a deux invités qu'on n'a pas encore entendus ce soir. Tout d'abord, Alain Salamin, vous avez longtemps travaillé, vous, dans les directions RH, sur le constat aujourd'hui, égalité, oui ou non. Est-ce que vous avez observé tout de même une évolution ?
Alors, je vois une évolution dans les grandes entreprises principalement parce que, comme l'a été évoqué par Madame Pugin, il y a une réalité qui est plus facile à aborder vu la taille de l'entreprise, les ressources qui sont à disposition. Mais il faut quand même pas se voiler la face. Il y a aussi un autre aspect au niveau des grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle le marketing employeur et de se présenter en tant qu'entreprise avec cette vision égalitaire est de plus en plus porteur. Et c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve plus dans les grandes entreprises que dans les petites. Moi, ce qui me gêne dans le débat, c'est que le débat entre les petites et les grandes entreprises, c'est que les petites entreprises ont dit « bon, ben c'est difficile, il n'y a pas de ressources, ça prend du temps, etc. » En fait, qu'est-ce qu'on met en lumière ? On met en lumière pour moi ici toute une base de préjugés dans lesquels on fonctionne depuis toute une série d'années. Et on oublie que d'un point de vue des recherches, toutes les recherches qui ont été faites sur la diversité, notamment la diversité du genre, montrent très clairement que c'est un énorme avantage pour les entreprises d'avoir une diversité, notamment hommes-femmes, au niveau de la direction, au niveau du management. Alors pourquoi est-ce que dans les petites entreprises notamment, mais aussi dans les grandes, hein, c'est toujours le cas, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? C'est parce que ces préjugés, pour moi, sont beaucoup trop vivaces, beaucoup trop ancrés. Et le seul moyen de faire tomber ces préjugés, c'est quoi ? Est-ce que c'est d'attendre que la prochaine génération passe le cap de la présente et puis que finalement il y a quand même quelque chose qui évolue parce qu'il faut attendre 30-40 ans pour que les générations changent. Pour moi c'est faux. Pour moi il faut faire un électrochoc dans le système, il faut défibriller un petit peu tout ça et puis changer la logique de fonctionnement pour qu'enfin on avance. Et si on prend juste un exemple de comparaison internationale, la Suède qui est tout le temps citée en exemple, ils ont voté leur première loi d'égalité, notamment salariale mais aussi d'accompagnement dans tout ce qui est conditions cadres, entre 1971 et 1974. Donc ça fait bientôt 50 ans, quoi. Il faut qu'on se réveille.
À l'époque,
il faut rappeler quand même qu'à l'époque, les femmes suisses n'avaient pas le droit de vote.
Exactement.
Aude Pugin, il faut qu'on se réveille, ce cri du cœur d'Alain Salamin.
Je ne veux pas me répéter par rapport à ce qui a été dit.
Mais vous dites qu'il y a une prise de conscience. Visiblement, Alain Salamin n'est pas d'accord avec vous.
La réalité que je vis est différente. Et puis, je dirais aussi, si vous me permettez de prendre un petit peu de recul, on est sur ce plateau. Alors, je suis ravie qu'il y ait un homme qui ait été invité pour parler de l'égalité homme-femme. Mais je vous avoue que, voilà, c'est le seul cas où on va au-delà des quotas, où sur quatre invités, on a trois femmes.
C'est faux. Et c'est vrai. C'est faux sur en tout cas sur notre antenne, je peux vous assurer qu'on invite souvent des femmes, mais pas que sur cette question d'égalité.
Mais ce que j'aimerais simplement dire, c'est que ce qui est assez ironique, c'est que les gens qui s'engagent dans ce combat de l'absence de discrimination et de l'égalité, souvent perpétuent un peu les stéréotypes, parce que quand on est une femme qui travaille, on vient souvent vous demander comment vous faites pour concilier vie privée et vie professionnelle. On pose rarement la question à un homme, et c'est vrai que souvent on est amené, dès le moment où on a un rôle politique et économique, à s'exprimer sur la famille, sur l'égalité homme-femme, le congé paternité. Et donc voilà. Donc le changement, il est en marche. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne reste rien à faire et qu'il n'y a aucun progrès à améliorer. Simplement, effectivement, vous l'avez dit, loi sur l'égalité en Suède en 1971, droit de vote des femmes en Suisse en 1971. Suisse. J'aimerais bien qu'on regarde aussi le chemin qu'on a parcouru depuis. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste rien à faire et à améliorer.
Alors, on avance un peu dans ce débat avec un exemple concret, et je vous donnerai la parole, promis, Églantine Jamais, tout à l'heure. Cet exemple concret dans ce débat sur l'égalité au travail, c'est l'exemple du congé parental, Tania Zaspiner, qui est en train de faire son chemin dans les entreprises.
Oui, aucune loi ne prévoit un congé parental ou paternité en Suisse. D'ailleurs, le Conseil fédéral vient de donner un nom de principe à 2 semaines de congé paternité, mais il n'a pas le dernier mot. Les discussions sont encore en cours au Parlement. Du coup, ces dernières années, certaines entreprises ont décidé de le mettre en place à l'interne. L'une d'elles, c'est Procter & Gamble, plus de 1800 employés sur son site de Genève. Elle a introduit au début de l'année un congé de 8 semaines pour le second parent. Karine Chilly, responsable de la communication chez Procter & Gamble.
En encourageant activement les pères à prendre le congé de paternité, nous voulons faire du congé parental la norme plutôt que l'exception. Et une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, surtout à des moments clés de la vie, améliore de manière significative le bien-être personnel et familial de l'employé. Un employé heureux est plus performant. Et au final, c'est tout le monde qui en bénéficie.
L'entreprise Novartis a aussi mis en place un congé parental dès le mois de juillet. Les pères pourront prendre 14 semaines étalées sur une année après la naissance de l'enfant. Alors notre collègue Alain Croballion a demandé au responsable RH de Novartis, Thomas Bösch, si les entreprises suisses devaient généraliser cette pratique.
Nous avons une taille critique qui nous permet de redistribuer des tâches, d'engager des intérimaires ou encore de reporter certains projets. Et je crois que de nombreuses PME n'ont pas ces possibilités. Ou seulement au cas par cas, lorsque le contexte s'y prête. C'est pour ça que c'est très difficile de généraliser la démarche.
Et on précise que Novartis emploie plus de 12 000 personnes en Suisse.
Merci Tania. Glantine Jamais, ces entreprises de grande taille qui font le pas d'un congé parental, est-ce que ça veut dire qu'on est, disons, sur la bonne voie ?
Oui, on est sur la bonne voie et on est sur la bonne voie parce qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises de grande taille, mais aussi de taille moyenne, ont compris justement que la question de l'égalité, c'était un levier. Et je crois que c'est vraiment central, c'est-à-dire que tant qu'on considère la question de l'égalité au travail comme une question de femmes, déjà c'est une question marginale, parce qu'on est quand même dans un système où pour l'instant ce qui concerne les femmes c'est quand même pas le plus important, et puis c'est une question qui est vue comme coûteuse, comme agaçante, comme peut-être allant pas dans l'intérêt des entreprises, allant générer effectivement des coûts, et peut-être étant aussi un peu contre les hommes, donc... Finalement, on n'avance pas tant qu'on perçoit cette question de l'égalité comme une question de femme. Quand on l'aperçoit comme une question qui concerne l'ensemble de l'entreprise, les hommes, les femmes, et qui est un levier de performance, M. Salamin l'a dit, toutes les études convergent, hein, puis c'est de l'ordre de 20% d'augmentation de la rentabilité, donc c'est vraiment extrêmement élevé, mais aussi un levier d'innovation, parce qu'on sait tout simplement que quand on met des personnes qui ont des horizons un peu différents, des parcours de vie un peu différents ensemble, il y a plus d'innovation, il y a plus de créativité, et puis un levier d'attractivité. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est dans un marché de l'emploi où il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il y a 40% des cadres qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc on se rend bien compte que si on n'arrive pas à attirer suffisamment de talents et qu'on attire qu'une partie réduite du marché, c'est une très mauvaise nouvelle pour les entreprises. Et c'est les entreprises qui auront aujourd'hui réfléchi à cette question et fait les changements, des changements en profondeur. L'inégalité salariale, encore une fois, c'est une conséquence d'un système qui hiérarchise le masculin et le féminin et d'un système qui ne donne pas peut-être les mêmes chances à tout le monde en raison de plein de stéréotypes qu'on a intériorisés. Donc tant qu'on ne travaille pas en profondeur sur la culture de l'entreprise, sur l'organisation du travail, sur les pratiques managériales, finalement le système il continue à se reproduire et à générer les mêmes conséquences.
Véronique Palito, au-delà de ces considérations-là, notamment de rentabilité, qui pousse ces entreprises de grande taille à adopter des mesures telles que le congé parental dont on parle, est-ce qu'il y a aussi, d'après vous, à vos yeux, une dimension marketing ? Ça fait bien pour une entreprise de parler égalité.
Je pense qu'une entreprise a tout à gagner à parler de l'égalité, a tout à gagner à proposer un congé parental. Je pense simplement qu'on ne peut pas régler cette question au niveau simplement de l'entreprise. Même si on négocie avec une entreprise dans une convention collective un congé parental, ça ne va pas régler le problème sociétal que représente l'absence de congé parental. Et comme l'a dit ma voisine, on a une situation où justement on a une inégalité, pas seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Et tant qu'il n'y aura pas une répartition des tâches plus égalitaire entre les hommes et femmes dans la vie privée, on aura cette problématique d'inégalité aussi dans le monde du travail. Et le congé parental, c'est une première réponse à cette problématique problématique de répartition entre hommes et femmes.
Alain Salamin, au-delà de cette dimension économique, il y a aussi une question tout bêtement de recrutement pour une entreprise d'adopter ce genre de mesures.
Oui, parfaitement. Alors pour moi, je reviens à ce que disait Madame Chamais, il faut toucher les fondamentaux. Et moi, ce que j'ai vécu trop souvent dans les entreprises, avec toutes les bonnes volontés du monde, on a des managers qui se retrouvent dans des situations où ils ont des impératifs de productivité qui sont extrêmement élevés, il y a beaucoup de pression au niveau des résultats. Vous devez engager une personne, vous avez deux dossiers en face de vous, il y a une femme de 29 ans et un homme de 30 ans. Qu'est-ce que vous engagez ? Dans les circonstances actuelles, j'ai écrit une petite chronique dans le Temps pour dire que le congé maternité était intrinsèquement discriminatoire. Parce que en engageant une femme, vous prenez le risque d'avoir une absence de 14 semaines, voire plus. Et le seul problème, la seule manière de régler ce problème, c'est pas un congé paternité, c'est un congé parental, c'est de mettre tout le monde au même pied d'égalité. C'est-à-dire que vous engagez, une femme ou un homme, vous prenez en même... en même temps le même risque. Et quand je dis ça, c'est pas juste les managers hommes qui le font. J'ai aussi vu des cas où, de manière implicite, il y a des femmes qui disent « Mais écoute Alain, je suis dans cette situation, est-ce que j'ose prendre le risque avec tout le poids que j'ai là-dessus ?» Donc c'est là qu'on parle des conditions cadres, et pour moi le seul moyen, et c'est un moyen fondamental, de mettre tout le monde à égalité, qui va ensuite impacter les notions de salaire, qui va ensuite impacter les notions d'accession à des positions de responsabilité, parce que c'est valable pour les recrutements externes comme pour les promotions, c'est déjà d'avoir ce pilier de base qui est le congé parental pour tout le monde.
Aude Pugin, un congé parental, ce serait possible dans votre entreprise, par exemple ?
Alors, peut-être, je souhaiterais préciser que la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie s'est déclarée en faveur du contre-projet de 2 semaines de congé paternité. Absolument. Je dirais que plus que ce congé, alors je conçois que c'est un début, c'est un pilier. À mon sens, c'est ce que nous offrons par exemple dans notre entreprise, parce que le moment de la naissance est évidemment un moment important et privilégié. Après, de favoriser la mère par rapport au père, je rappelle qu'il y a quand même des conditions physiques et physiologiques qui fait que la mère a besoin d'un petit peu plus de récupération que le père. Alors, pas forcément 4 mois, mais en tout cas un petit peu plus que le père. Ensuite, ce que je préciserais, c'est que pour moi, la véritable égalité et l'épanouissement professionnel, c'est plutôt de favoriser des temps partiels, de prévoir que les hommes aussi puissent garder un poste à responsabilité en faisant du 80%, ce que
on
nous
peut être
offrons.
Cadre à 50-60%.
Alors, je pense qu'à 50-60%, c'est difficile, sauf à nouveau dans les multinationales, parce qu'ils ont une typologie d'activité bien spécifique et aussi un volume de collaborateurs qui rend cela possible. Je pense que dans des entreprises de taille petite ou moyenne, on peut garder un poste à responsabilité en travaillant à 80%. En deçà, c'est difficile. Mais vraiment, pour moi, la modernité, c'est de nouveau, durant toute la vie de l'enfant, des parents, de permettre justement cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Ça passe aussi par le fait d'avoir des systèmes et des moyens d'accueil pré- et parascolaires. Et je pense que la réponse à une carrière continue des hommes et des femmes, elle passe plus par ça qu'un congé parental ou paternité.
18h48, vous écoutez Forum, c'est le grand débat. À quand l'égalité salariale ? Tania Zaspinard, on va maintenant se demander comment aller plus loin. On a parlé du congé parental, mais comment aller plus loin ? Faut-il aller plus loin ? Quelles sont les mesures supplémentaires qui peuvent être mises en place pour plus d'égalité au travail ?
Il faut travailler sur l'implication des hommes. C'est en tout cas l'avis de Karine Chilly de chez Procter & Gamble.
Jusque très récemment, encore dans notre société, l'égalité des genres était vue comme une affaire de femmes. Mais c'est l'affaire de tous. Et si on veut vraiment accélérer le progrès vers la parité, nous devons impliquer les hommes. Donc nous, ce que nous avons mis en place à l'interne, ce sont des ateliers où les collaborateurs, hommes et femmes, d'ailleurs, prennent conscience des inégalités, des préjugés inconscients qui existent et décident de faire quelque chose, que ce soit au niveau de leur équipe ou même dans la sphère privée.
Et puis, de manière générale, voilà des pistes souvent évoquées pour plus d'égalité, qu'elles soient mises en place par les entreprises ou au niveau politique. La création de places de crèche, la possibilité de travailler de manière flexible, la rémunération du travail à domicile ou encore le fait de traiter l'inclusion et la diversité comme des objectifs pour les managers dont dépendrait par exemple leur bonus de fin d'année.
Et Glantine Jamais, je reviens sur ce que disait cette responsable chez Procter & Gamble. Finalement, ce qu'elle dit, c'est que plus d'égalité au travail, ça passera forcément par un profond changement de mentalité aussi.
Absolument. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les solutions. L'État a sa part à faire, les entreprises ont leur part à faire. Il y a des choses qui relèvent effectivement de la sphère privée, mais qui est énormément influencée par le conditionnement social qu'on subit, par l'éducation, etc. En Suède, ils ont aussi commencé il y a une cinquantaine d'années à éduquer quelque part à l'égalité. Donc on voit bien que le produit de tout ça, c'est vraiment ces stéréotypes qui sont ancrés très inconsciemment. Et en effet, c'est une question qui ne peut pas être réglée par une seule solution, qui ne se décrète pas, vous l'avez dit, ça se construit. Mais pour autant, c'est vrai qu'il faut arrêter de corréler femme et maternité tout le temps, parce que l'exemple que vous avez donné sur le CV est flagrant, mais il faut quand même se rappeler aussi que pendant très longtemps, les hommes étaient absents pour des périodes militaires, et ça posait beaucoup moins de problèmes aux entreprises que les congés maternité. C'est là qu'on voit bien que cette hiérarchie de valeurs, elle est toujours là, mais tant qu'on pense à une femme qui prend un poste, elle va être absente parce qu'elle va plus s'occuper des enfants, on n'avancera pas. Donc il faut vraiment envisager des solutions à tous les niveaux de manière systémique et pas les opposer entre elles.
Véronique Polito, on a commencé ce débat avec vous, on va le terminer avec vous. Au final, on vous a mis d'accord sur le fait qu'il y a plusieurs leviers d'action. Il y en a certains qui sont politiques, il y a d'autres qui sont plus volontaires de la part des patrons. finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que la politique, elle est potentiellement assez démunie face à cette réalité des inégalités en entreprise.
Moi, je pense pas que la politique est démunie. La question, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique d'aider les entreprises à faire ce pas? Et je pense que la question du congé parental ou congé paternité est une question décisive, comme l'a aussi expliqué Madame Jamais. Et je pense que là, il faut vraiment que la politique prenne ses responsabilités. Et puis, je pense aussi qu'il faut pas oublier la question salariale. Je pense que le fait que les femmes soient moins payées sur le marché du travail a aussi un effet sur le fait qu'elles se replient sur la sphère privée au moment où il y a l'arrivée d'un enfant. Et je pense que c'est important qu'il faut aussi agir à ce niveau. Et à ce niveau, on peut agir seulement aussi au niveau politique.
Je vais vous poser la même question que j'ai posée au tout début du débat. À quand l'égalité salariale? En une phrase, Véronique Polito.
Je maintiens mon 250 ans. C'est pour cette raison qu'il faut absolument le 14 juin se mobiliser pour la grève des femmes.
Aude Pugin.
Je réitère mon principe d'immédiateté, ce qui ne veut pas dire que le changement est en marche. Voilà ce que j'ai envie de dire.
Alain Salamin.
Ça doit changer au niveau des conditions cadres pour avoir un terreau favorable et j'abonde tout à fait dans le sens d'avoir une approche systémique pour qu'ensuite on arrive à travailler sur toute une série de solutions, notamment aux politiques. Je mettrai juste un petit point qui m'étonne, c'est qu'au niveau politique, si on regarde l'implication des femmes politiques sur ces questions de genre, elles suivent principalement tout ce qui est directive du parti et elles sont pas mobilisées, elles, en tant que femmes, sur les aspects purement discriminatoire.
Longue phrase. Glantine,
mais c'est difficile d'avoir la double casquette, ouais, et puis en tant que femme d'assumer, je pensais ce que disait aussi Madame Pugin au début. Je dirais qu'on y travaille.
Eh bien, merci à vous quatre de nous avoir rejoints dans ce forum. Nous débattions de l'égalité au travail. Une bonne soirée.
Merci. Merci.